ça va comme ça.
Pourquoi je me suis comme ça?
Ok, quand même. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction. Puis la subvention de 43 millions, là, je vois pas beaucoup. Je veux dire, ça, cet argent-là, c'est vraiment une grande équipe et on se partage un gros projet d'équipe, là, mais c'est vraiment un beau projet parmi d'autres. Et donc aujourd'hui, avec un titre accrocheur, je l'espère, Objectif Lune, Objectif Mars, je vais vous présenter un peu l'actualité, ce qui se passe dans le domaine de l'exploration spatiale, en présentant un peu des projets auxquels on contribue pour la télédétection lunaire et martienne. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire 38 diapositives, je pense, donc ça devrait rentrer dans le temps. Mais je vais rester avec vous après pour le dîner aussi. Donc, si vous voulez poser des questions, continuer la discussion, ça me fera bien plaisir de rester par la suite. Un truc aussi, donc je suis professeure du département de géomatique appliquée et titulaire d'une chaire de recherche, donc la chaire de recherche du Canada en télédétection de la géologie nordique et spatiale. Donc, je suis arrivée au département en fin 2019 de géomatique avec l'octroi de la chaire de recherche en même temps. Donc, ça fait 4 ans et demi que je suis professeure à l'université. Donc, j'ai reçu les nouvelles de l'agrégation ce matin, c'est bien. Et là, au niveau de la chaire, ben, c'est une chaire qui a une durée de 5 ans avec un renouvellement possible pour 5 autres années. Donc, là, je commence les démarches pour demander le renouvellement de la chaire, en espérant que ce soit positif. Mais justement, là, après 4 ans et demi de recherche très intensive au travail, bien, là, quand on prend le temps de se reculer un peu, de regarder tout ce qui a été réalisé, on se rend compte que les choses vont plutôt bien, on ne se tourne pas les pouces. Et voilà, et il y a plein d'idées pour la suite des choses aussi. Et j'ai pris un congé de maternité aussi d'un an, j'ai deux jeunes enfants. Donc, une de 6 ans et un garçon de 2 ans. Donc, ça tient à occuper tout ça. Est-ce que je vais, là, je vais y aller? Alors, on commence avec un peu d'actualité. Je ne sais pas si vous suivez les développements assidûment dans le domaine de l'exploration spatiale. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et au niveau lunaire, il y a énormément de choses qui se passent. Assez que moi-même, j'ai du mal à rester au courant parce qu'il y a des développements partout dans le monde. À chaque jour, il y a des choses qui se passent. Mais c'est sûr qu'il y en a desquels je suis plus près. Donc, je garde un œil là-dessus le plus possible. Et le prochain événement majeur, en fait, ça va être majeur dans le domaine de l'exploration lunaire, ça va être demain. Donc, cette nuit, vers 1h du matin, donc au matin du 15 février, les États-Unis vont lancer une sonde qui devrait aller allunir sur la Lune, si tout se passe bien, une semaine plus tard, donc le 22 février. Donc, c'est la mission IM-1. C'est la compagnie privée Intuitive Machines qui envoie une sonde sur la Lune, près du pôle sud, donc 80 degrés sud. Et ça, ça a plusieurs implications majeures. Premièrement, c'est la première sonde commerciale qui va être envoyée sur la Lune par les États-Unis. Donc ce que la NASA a fait, c'est qu'elle a ouvert un concours aux différentes compagnies privées américaines pour subventionner une équipe pour construire un alunisseur et l'envoyer sur la Lune. Donc, ça permet à la NASA de réduire ses coûts d'exploitation et de stimuler le domaine spatial aux États-Unis. Donc, Intuitive Machines, c'est la première fois qu'ils vont lancer un alunisseur pour se rendre sur la Lune, à relativement faible coût pour la NASA. Et en échange, bien, la NASA envoie des instruments scientifiques sur l'alunisseur. Donc, ça stimule l'économie, mais aussi la science avec les instruments qui vont être à bord. Donc, il y a un alunisseur, donc Novaci ou Odysseus, avec différents instruments scientifiques et aussi un télescope commercial dans ce cas-là. Donc, comme c'est une compagnie privée qui reçoit un contrat de la NASA pour envoyer l'admisseur, la compagnie peut accepter différents contrats aussi et ajouter d'autres instruments. Donc ça, ça va être une grande première demain. On espère que tout se passe bien. Le lancement va être fait avec une fusée de SpaceX Falcon 9. Donc c'est vraiment un changement de paradigme là, au sens où l'exploration spatiale se fait de plus en plus par des compagnies privées. Mais on a les agences spatiales qui contribuent et les scientifiques aussi également. Donc on transitionne vers ça. Et voilà, donc l'autre point important, c'est que la mission va devrait aller, si tout va bien, vers 80 degrés sud. Donc c'est la mission robotique la plus près du pôle sud qui va avoir lieu si l'admisseur réussit ce qui est prévu. Alors surveillez demain, il y aura des actualités là-dessus. Donc ça, c'était au niveau des États-Unis. Si on recule de quelques semaines à peine, le 19 janvier, il y a un autre admisseur qui s'est rendu sur la Lune. Cette fois-là, c'est un admisseur japonais, donc de l'agence spatiale japonaise, la JAXA. C'est un admisseur nommé SLIM, qui s'est rendu, lui, plus près de l'équateur, donc à 13 degrés sud, 25 degrés est, donc sur la face visible. Et cette fois-là, un des buts de la mission, c'était de démontrer que l'agence spatiale japonaise était capable d'allumer de manière précise là, par rapport à des coordonnées estimées au sol. Et là, si vous remarquez, c'est un peu particulier parce que l'allumisseur a allumé à l'envers. Donc, on voit les rétrofusées en haut et les pattes. Donc, l'allumissage a été considéré comme un succès. Ils ont vraiment été capables d'allumer très très près du point au sol qu'ils voulaient. Donc, il y avait une ellipse d'incertitude de 100 mètres environ, ce qui est très très peu. Mais ils ont allumé à l'envers. Donc, c'est un succès quand même, considéré comme un succès. Et en fait, il y a deux rovers qui étaient à bord, qui ont réussi à sortir. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est une partie du rover qui a été capable de prendre une image de l'admisseur. Donc, ça a relativement bien été. Et cet alunissage-là a fait du Japon le cinquième pays à réussir à aluner sur la Lune. Donc, c'était un pas en avant majeur pour le Japon. On recule encore seulement de quelques mois. L'été dernier, le 23 août 2023, c'était au tour de l'Inde d'envoyer un alunissage sur la Lune. C'était la mission Chandrayaan 3. Donc, ISRO, c'est la compagnie, l'agence spatiale indienne, qui a aluni à ce moment-là à ce qui était le plus près du pôle sud lunaire. Donc, c'était environ à 69 degrés sud. C'était quand même une très belle avancée à ce niveau-là. L'alunisseur s'est aluni, a aluni correctement, donc à l'endroit cette fois-ci. Et même chose, il y avait un rover à bord qui a réussi à débarquer, prendre une photo de la sonde, acquérir des données aussi pendant plusieurs jours. Donc, ça a été une démonstration technologique de la part de l'Inde aussi, qui en a fait le quatrième pays à réussir cet exploit seulement quelques mois plus tôt que le Japon. Et là, on recule de quand même plusieurs années. En 2013, la Chine, à ce moment-là, est devenue le troisième pays à réussir à aluner. C'était la mission Chang'e 3 qui a aluni près de l'équateur, ou latitude moyenne, là, 44 degrés nord. Même chose, il y avait un alunisseur et un rover qu'on voit ici. Donc, les deux ont été capables de se photographier, de prendre des données pendant plusieurs jours. Et donc, en 2013, la Chine devenait le troisième pays à réussir à aluner. Et là, je ne parle pas des nombreuses autres missions, mais de 2013 à nos jours, là, la Chine a développé un programme d'exploration spatiale très ambitieux avec Chang'e 4, Chang'e 5, Chang'e 6 est prévu prochainement. Donc, depuis le 2013, la Chine a été très, très active au niveau de l'exploration spatiale. Avant ça, vous êtes probablement familier. Donc, avant la Chine, en 2013, il faut reculer vraiment aux années 60-70. au moment où les États-Unis et l'URSS avaient les programmes Apollo et Luna. Donc, on était dans la guerre froide et les deux pays faisaient une course à l'espace. Donc ces missions-là, jadis, ont permis, surtout les missions Apollo, ont permis de ramener plus de 382 kg d'échantillons lunaires sur Terre. Donc, on a une quantité quand même énorme de matériel avec lesquels travailler. Et une partie de ça, c'est une photo d'un panorama de la mission Apollo 17. Donc, on voit ici le véhicule électrique lunaire avec lequel il se promenait. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a une partie des échantillons qui ont été collectés dans les années 60-70, qui ont été conservés, scellés et gelés jusqu'à nos jours pour permettre de les étudier avec des instruments plus modernes. Donc, depuis quelques années, ça doit faire déjà 4-5 ans peut-être, le programme ALSA, donc Apollo Next Generation Sample Analysis Program, qui permet à des scientifiques qui ont des idées originales d'aller ouvrir des anciens échantillons scellés pour faire des expériences scientifiques avec des instruments de pointe. Alors, pourquoi cet engouement international pour la Lune? Là, on se rend compte que, donc, on avait l'émission Apollo, Luna, ensuite de ça, plusieurs années plus tard, la Chine emboîtait le pas, et là, on sent vraiment que la cadence accélère, différents pays veulent se rendre sur la Lune aussi. Et donc, pourquoi? En fait, c'est principalement à cause de donc le groupe International Space Exploration Coordination Group, donc un groupe de coordination internationale pour l'exploration spatiale, a été créé il y a quelques années. Et ce groupe-là, en fait, regroupe maintenant 27 agences spatiales à travers le monde, dont l'Agence spatiale canadienne, la NASA, ISRO, l'Agence spatiale japonaise aussi. Donc, la plupart des grandes agences spatiales se sont regroupées entre elles pour établir un plan de marche commun entre tous. Donc, l'idée, c'est que les différentes agences spatiales se regroupent et établissent un plan commun pour l'exploration spatiale pour concentrer les efforts, coordonner les efforts, en fait, et non les dupliquer. Donc, voilà. Donc, ce groupe de coordination-là s'est entendu il y a quelques années sur une vision commune qui est traduite dans le document ici de Global Exploration Roadmap. Donc, c'est le document qui présente la vision commune de toutes les agences spatiales. Et ce qui ressort de ce document-là, c'est qu'on veut, de manière collective, en fait, on veut étendre la présence humaine au-delà de la Terre, au-delà de l'orbite de la Station spatiale internationale. Et ce qu'on a un peu toujours derrière la tête en idée, c'est de se rendre éventuellement un jour sur Mars. Et ça, avant qu'il y ait le groupe de coordination, je dirais que l'objectif Mars était très clair, tout le monde voulait aller sur Mars, mais c'est très, très compliqué d'aller sur Mars, alors que toutes les leçons apprises par les missions Apollo commencent à se perdre tranquillement, pas vite. Alors, ce que le groupe de coordination a établi comme feuille de route, c'est de dire, OK, on va viser Mars éventuellement pour l'exploration humaine, mais on va se concentrer en premier sur la Lune pour essayer de développer des nouvelles capacités technologiques, premièrement pour se rendre sur la Lune, et ensuite de ça, essayer d'y vivre à plus long terme avant de viser Mars, qui va être encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors voilà, donc à court terme, là, je vous dirais jusqu'à 2030 environ, ce qui va se passer, c'est que les différentes agences spatiales vont envoyer des sondes sur la Lune, éventuellement des humains. Et là, le but, c'est de tenter de réussir à soutenir la présence humaine sur la Lune à long terme. Et plus tard, on ira sur Mars. Donc, le focus se fait beaucoup, beaucoup sur la Lune. Puis sur Mars, ben, on continue d'envoyer quand même des missions robotisées à la recherche de traces de vie. Mais l'action, si on veut, va se dérouler sur la Lune là, pour les 10 prochaines années environ. Alors ici, je vous présente un peu le plan, les grandes lignes du plan de match selon le groupe de coordination. Donc, on se trouve aux alentours de 2022-2023 et on vise mars éventuellement dans les années 2030. Ce qui se passe là à notre époque, donc il y a plusieurs composantes. Il y a l'aspect surface lunaire. Donc ça, c'est toute la série des missions robotisées qui vont aller atterrir sur la surface. Ensuite de ça, on a la composante en orbite, donc des satellites de télédétection en orbite qui prennent des images pour mieux comprendre la composition du sol et comparer avec ce qu'on voit à la surface. Et éventuellement, donc le programme Artemis de la NASA vise à envoyer des humains sur la surface lunaire. Donc, ça devrait se faire au cours des 5 prochaines années environ. Donc, on a eu la première mission Artemis 1 qui a fait le test de la capsule Orion qui va éventuellement être habitée, mais elle a fait le test de démontrer qu'elle fonctionne bien en orbite. Artemis 2, donc, qui va avoir des humains à bord d'une capsule qui va faire le tour de la Lune avant de revenir, mais il n'y aura pas d'alunissage à ce moment-là. Et on a un Canadien qui prend part à la mission Artemis 2, l'astronaute Jeremy Hansen. Donc ça va être bien intéressant à suivre en 2025. Et ensuite de ça, Artemis 3, en théorie, on a des humains qui vont fouler vraiment la surface lunaire comme à l'époque Apollo, mais près du pôle sud. Pourquoi le pôle sud? Parce qu'avec les données de télédétection, donc tout ce qu'on voit à l'aide des satellites en orbite autour de la Lune, on a vu qu'il y avait de la glace au sol. On ne sait pas encore exactement combien et où. On a une idée un peu floue parce que les différentes données nous donnent un portrait qui est un peu contradictoire. Donc, les différentes missions robotisées, certaines des missions robotisées vont se rendre à la surface pour essayer de comprendre plus en détail là, où se trouve la glace, en quelle quantité, tout ça. Et l'idée, c'est d'être capable de soutenir une présence humaine avec les composants de la glace, donc eau, oxygène, si on peut réussir à soutenir les humains avec ça. Donc à court et moyen terme, là, on devrait avoir des humains sur la Lune près du pôle sud. Et en orbite, les différents pays sont en train de construire le Gateway, qu'on appelle. Donc, c'est une station spatiale internationale, mais en version beaucoup plus petite, qui va rester en orbite autour de la Lune. Donc, ça va être utilisé pour acquérir des données scientifiques, mais aussi comme relais entre la Terre et la Lune. Donc, les astronautes vont se rendre au Gateway, puis ensuite de ça, il va y avoir un petit module pour atterrir. Et éventuellement, une composante de surface là, avec des rovers pressurisés, peut-être un module d'habitation. Mais là, on commence à être rendu un peu plus loin dans les plans. Là. Mais c'est la vision là, à moyen terme des choses qui vont se passer. Mais, et donc là, on est vraiment dans la composante des missions robotisées à la surface et relativement bientôt des astronautes. Voilà, donc au niveau de la NASA, donc, qui est une des agences dans le groupe de coordination, leur message est très très clair. Là, maintenant, c'est le Moon to Mars Architecture. Donc, c'est vraiment à moyen long terme là, de viser l'étude détaillée de la Lune, apprendre à y vivre avec des humains et éventuellement on ira sur Mars. Alors, donc l'UDES prend part aux efforts d'exploration. Donc voilà, dans le fond, les États-Unis ont annoncé ce programme ambitieux-là début 2019. Et moi, j'entrais en poste à l'automne 2019. Donc j'avais déjà des idées de recherche et tout ça. Puis finalement, quand la nouvelle a tombé avec les financements accordés, tout ça, ça l'a un peu... ajouter de l'ampleur au projet qui était prévu, puis le timing était parfait. Donc voilà, donc j'ai la chaire de recherche en télédétection de la géologie nordique et spatiale, donc une première première version jusqu'en 2025 en espérant être renouvelée pour un autre 5 ans. Donc, le but de la charte de recherche, c'est d'utiliser les données de télédétection pour, en soutien aux missions d'exploration spatiale. Globalement, c'est ça. Donc, au niveau de la télédétection, il y a différents aspects qu'on peut utiliser pour soutenir les missions d'exploration spatiale. Premièrement, quand on parle de télédétection, on pense aux satellites qui sont en orbite autour de la Terre, la Lune et Mars et tout ça, qui prennent des images et des données de télédétection. Et avec ça, bon, on est capable de caractériser la surface le mieux possible avant d'envoyer les humains puis les missions robotisées. Donc ça, c'est une composante importante de la chaire de recherche. Sinon, je vais vous donner des exemples tantôt. Sinon, il y a tout ce qui est études en laboratoire aussi. Donc, on a des instruments semblables à ceux qu'on envoie en orbite à bord des satellites. On a des versions portatives de terrain ou de laboratoire avec lesquelles on peut faire des tests. Donc, c'est une autre composante importante de la chaire. On fait des tests avec des matériaux qu'on dit analogues à la surface lunaire ou martienne pour être capable de bien analyser les données qui nous sont renvoyées. Et on fait des études analogues vraiment sur le terrain, dans des régions qui partagent des caractéristiques à la Lune ou à Mars, au niveau de la géologie, au niveau de l'environnement ou des conditions de fonctionnement, par exemple. Donc, je vais vous donner des exemples de tout ça un peu plus tard. Et donc, le gros des